Chapitre 42. Ça va mieux? Tiens, bois ça. Lizine était assise par terre dans un coin de l'atelier, se remettant à peine du tourbillon qui lui vrillait le crâne. Elle saisit le gobelet que lui tendait la femme. « Bien sucré, comme t'aimes !» fit-elle. Lizine porta le café chaud à ses lèvres. Elle était frigorifiée. « On dirait que ça s'arrange pas ton méchant problème de mémoire, » poursuivit-elle sans la quitter du regard. « Contrairement à la première fois, tu te souviens même plus de qui t'es, j'ai l'impression. » Moi, je peux te garantir que même si t'as pris quelques kilos depuis qu'on s'est vu, t'es bien l'Ariane que je connais. Qui crois-tu être ? Lizine lui tendit sa carte d'identité. L'autre la scruta un long moment, abasourdi. Merde ! J'y comprends que dalle. Elle a l'air carrément vraie. Comment tu t'es procuré ce truc ? Lizine ne répondit rien. Son interlocutrice lui rendit sa carte, la fixant dans les yeux avec une tristesse évidente. « Je suis Elisabeth, mais tout le monde me surnomme Zaz, » expliqua-t-elle. « On a peint ici, toi et moi, pendant des années. Ça aussi t'as oublié, je suppose. »«
Racontez-moi tout, du début à la fin, » articula péniblement Lizine, pétrifiée.
Zaz ôta son bonnet péruvien, dévoilant une cascade de cheveux noirs qui commençait à grisonner. Elle poussa un chevalet et s'assit contre un mur, face à Lizine. La semelle d'une de ses chaussures était trouée.
« Tout depuis notre rencontre ?»«
Depuis notre rencontre. »«
Je t'ai ramassé un matin sous le pont Saint-Martin. Ça remonte à, mon Dieu, au moins 5 ans. T'étais à même le sol, pas très propre. Tu portais un jean, un t-shirt et une casquette DHL. Tu sais, les livreurs. Bref, tu sentais un peu la vase ou une odeur de ce genre. » T'avais visiblement dormi là et t'étais incapable de me dire d'où tu venais. En fait, t'avais perdu la mémoire et pas le truc anodin, non, t'avais plus de passé. Tout ce que tu possédais de ton ancienne vie, c'était un billet de 10 euros au fond d'une poche. T'avais aucun papier sur toi, rien qui puisse te raccrocher à quoi que ce soit. La seule chose dont tu te souvenais, c'était ton prénom, Ariane.
Ariane, répéta Lizine sous le choc.
Juste Ariane, ouais. J'ai voulu t'emmener chez les flics, sauf que t'as fait une vraie crise. Tu refusais. C'était clair que tu crevais de peur et que tu te cachais. T'étais comme une bête traumatisée.
Lizine frissonna. Tout ça était impossible. Cette femme se trompait. Elle était Lizine Barthes, elle habitait à Rouen et travaillait au Courrier Normand. Elle était simplement de passage au Ménil pour vendre sa maison et sans cette maudite enveloppe dans la boîte postale, elle n'aurait jamais mis les pieds dans cet endroit. C'était ça la vérité. Zaz s'alluma une cigarette roulée.
« Je t'en propose pas, tu fumes pas !» fit-elle en soufflant un nuage blanc avant de poursuivre. « T'avais nulle part où aller, alors je t'ai amené au frigo. Tiens, viens voir. »
Elle se releva dans une grimace et conduisit Lizine au bout du couloir. Là, elles poussèrent une grille sur le côté et pénétrèrent dans ce qui s'apparentait à un studio sommaire. Un lit pourri contre un mur, des chauffages d'appoint, un endroit vaguement aménagé en cuisine, des toilettes et un semblant de salle de bain. Une fenêtre donnait sur la cour pavée par laquelle Lizine était arrivée.
« C'est chez moi. Je suis la plus ancienne des frigos. Ça fait plus de 10 ans qu'on m'autorise à vivre ici. Faut juste que je paie l'eau et l'électricité. C'est pas Byzance, n'importe qui peut entrer, mais ça me dérange pas. Je vais pas me plaindre, je suis en plein Paris quand même. Et puis, tant que j'ai la chance de peindre, moi, je suis heureuse. Enfin bref, je t'ai acheté quelques fringues et un matelas d'occasion et t'as dormi exactement là, sur la gauche. » Pendant toutes ces années, je me suis occupée de toi et, je vais pas te mentir, ta présence me faisait du bien. »
Rien de ce qu'elle racontait ne parlait à Lizine. Quand elles revinrent dans le couloir, elle était totalement perdue.
« Ça faisait pas un mois que t'étais installée que tu t'es mise à peindre ce labyrinthe en t'attaquant direct au mur, » expliqua Zaz en désignant la fresque devant laquelle elle se trouvait. « T'as commencé par le coin, là-bas, et tu t'es plus arrêtée. T'avais aucune technique, mais t'avais la fibre artistique. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Dans la cage d'escalier, t'étais quasiment en équilibre sur la rampe. T'aurais pu tomber 15 fois, mais tu traçais ce fichu dédale, sans réfléchir, presque malgré toi. Ça t'a pris 3 jours, et le pire, c'est que ça fonctionnait. Je veux dire, on est plusieurs à avoir vérifié. Il y avait bien une seule entrée et une seule sortie. C'était... dément.
Lizine s'efforça d'écouter,
parce qu'il le fallait si elle voulait continuer à avancer dans son enquête. Pourtant, elle n'avait qu'une envie, foutre le camp d'ici.
Après ça, je t'ai enseigné quelques petites astuces et t'as progressé très vite. Il y avait quelque chose dans tes dessins, une noirceur qui ne pouvait pas laisser indifférent.
Elle promena alors ses doigts sur le minotaure.
Tu l'as réalisé en une journée, il y a peut-être 2 ans de ça. Pour être honnête, je me suis toujours dit que tes œuvres devaient être liées à ton passé, à ce qui avait causé ton amnésie, et que t'avais dû en baver pour finir comme ça sous un pont. Je suis pas psy, mais en général, ce genre de truc arrive aux gens qui ont subi des violences.
Elle tira sur sa clope, faisant grésiller le tabac dans le silence.
En tout cas, grâce à la peinture, tu crachais toutes les saloperies enfermées en toi. T'as même tapé dans l'œil de Mathilde.
Mathilde ?
Pardon, Mathilde tient une galerie dans le 6e et vient souvent faire un tour au frigo. Elle aime donner leur chance aux artistes pas connus. Cette fois-là, elle cherchait des créations tordues. Elle a tout de suite été emballée par ton travail, et l'année dernière, elle t'a exposé. C'était de la balle, t'étais super contente et fière de toi. Et moi aussi j'étais fière. En plus, ça t'a rapporté de la thune parce que 3 de tes tableaux ont été vendus. Le début de la gloire. En fait, on était vraiment cool toutes les deux, on vivait notre petite vie. Enfin, faut quand même que je te dise qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé environ 4 mois après ton arrivée. T'avais oublié que t'avais oublié.
Je ne comprends pas.
Zaz haussa les épaules. J'ai pas compris non plus. Un matin, tu te souvenais plus que je t'avais recueilli sous un pont, mais tu te rappelais des événements antérieurs. T'as commencé à me raconter que t'habitais chez tes parents en banlieue, qu'ils t'avaient jeté à la rue parce que t'en foutais pas une, qu'ils en avaient marre de tes lubies d'artiste. Que c'était pour cette raison que t'avais débarqué au frigo et que c'était là qu'on avait sympathisé. Le pire, c'est que t'avais l'air sincère.
Soudain, tout ça fit écho aux lectures que Lizine avait faites au sujet des faux souvenirs, de la confabulation pathologique. « Ne vous fiez pas à votre mémoire », expliquaient les experts. Les personnes atteintes croyaient dur comme fer à des choses qui n'avaient jamais existé. Pourtant, même si elle avait conscience que son cerveau lui jouait des tours, elle était également certaine de ne pas être cette Ariane, ça ne rimait à rien. Et elle ne pouvait pas non plus avoir effacé dans son intégralité sa vie d'avant. C'était inconcevable. Et ensuite, Ariane est... Enfin, je suis partie d'ici.
L'automne dernier, vers octobre, une femme est venue. Une journaliste. Lizine Bart, qu'elle s'appelait, comme sur ta carte d'identité. Une nana avec des cheveux roux et un attrape-rêve, là, sur la gorge. C'est aussi le blackout en ce qui la concerne, je suppose.
Lizine hocha la tête, silencieuse.
Ouais, y a pas de raison que ce soit différent. Elle te cherchait parce qu'elle avait vu tes toiles à l'expo de Mathilde, l'été d'avant. Elle t'a interrogé sur tes peintures de labyrinthe. Elle voulait à tout prix connaître les sources de ton inspiration, ça l'obsédait. Quand elle a compris que tu ne lui apporterais aucune réponse, elle était désespérée. Alors je l'ai prise à l'écart, je lui ai dit que t'avais plus de mémoire, que t'en avais pas conscience, mais que ça ne t'empêchait pas de vivre et...
Elle se pinça les lèvres, l'air grave.
Et ? Elle m'a appris qu'en réalité, elle travaillait depuis des mois sur un dossier traitant de la violence dans l'art, et qu'elle était tombée sur un film où une fille subissait toutes sortes de supplices qu'elle m'a en partie décrits. J'en frissonne encore.
Comme pour lui prouver sa sincérité, elle montra les poils hérissés sur un de ses avant-bras.
Or, enchaîna-t-elle, sur ce film, on distinguait selon elle exactement le même genre de labyrinthe que ce qu'elle avait eu l'occasion d'observer sur un de tes tableaux à la Blue Arts Factory. C'est de cette manière qu'elle a fait le lien. Et après mes confidences, elle a aussitôt eu la certitude que ton étrange amnésie avait un rapport avec cette histoire, que t'avais dû surmonter un traumatisme. Une théorie avec laquelle j'étais plutôt d'accord.
Zaz observa l'extrémité de sa cigarette, tira une dernière taffe, puis l'écrasa dans un cendrier.
Elle m'a demandé de te convaincre d'aller t'installer chez elle. M'a promis que tu pourrais y rester et y peindre tout le temps que tu voudrais. Elle était touchante. Elle m'a immédiatement mise en confiance. Je savais qu'elle ferait tout pour t'aider à retrouver la mémoire et comprendre ce qui t'était arrivé. Alors, même si j'étais hyper bien avec toi ici, qu'on était un peu comme un couple, tu vois, ça n'aurait pas été honnête de continuer à te laisser te mentir à toi-même. J'étais triste, mais il fallait que tu partes. Je pensais que tu repasserais à l'occasion. Ça n'a pas été le cas. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et putain, ton problème, il est loin d'être résolu.
Zaz glissa les mains dans les poches de son gilet multicolore.
Le truc que je pige pas, c'est le coup de la carte d'identité. On dirait que t'as pris la place de l'autre, la vraie Lisine. Et si t'es à sa place, alors elle est où, elle? Tu devrais au moins te souvenir de ça, non? Et puis, où t'habites maintenant? T'es encore chez elle?
Lisine revit le corps crucifié et desséché de la femme au tatouage dans le cou. Recula vers l'escalier en pointant un index menaçant devant elle.
Tu racontes n'importe quoi! Je suis pas ta fichue Ariane, t'entends? J'ai rien à voir avec elle!
Ariane, écoute!
Mais elle n'écoutait plus. Elle dévala les marches, les yeux brouillés par les larmes, fuyant ce maudit labyrinthe qui l'écrasait. Elle ne pouvait pas l'avoir peint. Non!
Qu'est-ce qui est arrivé à la journaliste? Dis-le-moi!
Cria Zaz par-dessus la rambarde, dans une vaine tentative pour la retenir. Incapable de s'arrêter, Lisine courut jusqu'à la cour, où elle inspira un grand bol d'air frais. Puis elle s'essuya les yeux du bout des doigts. Tout ça n'était qu'un mauvais rêve, et elle comptait trouver, dans sa maison du Ménil, la preuve qu'elle n'était pas folle. Au moment où elle rentrait chez elle, elle se rappela le cambriolage, sa déclaration de vol auprès des autorités. Elle se souvenait encore du visage du flic qui avait tapé sa déposition. « Nom, prénom, adresse, circonstance », lui avait-il demandé. Ensuite, elle avait fait tout un tas de paperasses en ligne. Pour obtenir une nouvelle carte d'identité notamment, il lui avait fallu un acte de naissance, une photo et un justificatif de domicile. Puis elle avait rempli un formulaire CERFA où elle avait dû renseigner de nouveau son état civil, son adresse et divers éléments concernant le vol avant de le signer. Autrement dit, le fait de posséder un tel document au nom de Lisine Barth ne prouvait pas qu'elle était Lisine Barth. Elle s'était servie de papiers qui n'étaient pas les siens.
« Non, 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 c'est du pur délire »,
pensa-t-elle. Elle tentait par tous les moyens de se rassurer. Mais le moindre argument qu'elle trouvait pour démontrer l'incohérence de l'histoire de Zaz pouvait être balayé par un contre-argument. Elle aurait aimé téléphoner à quelqu'un, un ami, qui lui garantirait qu'elle était bien Lisine. Le problème, c'était qu'elle avait beau réfléchir, personne ne lui venait en tête à part ses collègues rouennais. Quant au fait qu'elle connût chaque recoin de cette maison, ça n'avait rien d'étonnant si on considérait qu'elle y avait vécu plusieurs semaines. Elle réfléchit, se remémora les événements des derniers jours et se mit à imaginer un scénario fou, persuadée qu'il aboutirait à une contradiction, à une impossibilité. Il lui fallait établir formellement qu'elle était Lisine Barth, qu'elle n'était pas cette Ariane qui, comme un coucou, se serait installée dans le nid d'un congénère sans même en avoir conscience.
D'accord, donc, partons de l'hypothèse absurde que je sois Ariane et que la femme au tatouage dans le cou soit la vraie Lisine Barth.
Dans la chambre, elle ouvrit les placards. Y découvrit des pantalons, quelques robes qu'elle n'avait pas portées. Jusque-là, elle n'avait jamais fait attention au contenu du dressing. Et elle se demanda pourquoi elle n'avait pas embarqué tous ses vêtements à Rouen lorsqu'elle était partie.
« Elle vient de me récupérer au frigo. On passe nos journées toutes les deux, elle me prend sous son aile, elle veut que je retrouve la mémoire. Elle m'emmène alors chez ce psy, le docteur Martin. En même temps, elle continue ses recherches sur le film. Et puis il y a aussi tous ces journaux dans les cartons. Est-ce qu'une piste l'oriente vers les faits divers? Est-ce qu'elle tente de tirer de l'anonymat la malheureuse victime du SNUF en parcourant les articles? Écume-t-elle les fichiers des personnes disparues? En tout cas, elle finit par identifier Romy. Peut-être que je l'y ai aidée. Peut-être que j'ai participé à son enquête. »
Elle renifla les parfums dans la salle de bain, observa le nécessaire de toilette. Où les avait-elle achetés? Quand? Pourquoi n'avait-elle aucun souvenir d'avoir utilisé le sèche-cheveux pourtant branché dans la prise?
Arrive le moment où les pas de Lisine la conduisent à Mölzer. Elle compte franchir une étape dangereuse. Elle sait que tout peut basculer. Prudente, elle planque la bobine dans une boîte postale qu'elle a simplement louée à son nom et me met en sécurité à Athis-Mons avec mes peintures, ses archives et tout ce qu'il faut pour survivre quelques jours en autonomie. Elle me laisse un mot, je dois contacter le docteur Martin si elle ne revient pas.
Elle s'arrêta au milieu du couloir, en plein dans son scénario. Quand allait-elle tomber sur cette putain de contradiction?
Prise au piège, Lisine se fait torturer et assassiner dans la cave de Saint-Maur. Pendant que je suis enfermée dans la baraque d'Atismons, Meltzer ou ses sbires pénètrent dans la maison du Ménil pour mettre la main sur la bande. Ils retournent tout, peut-être de rage, peut-être pour simuler un véritable cambriolage. En tout cas, ils ignorent que j'existe. Ils ignorent qu'on a identifié Romy et ils repartent bredouille. Moi, de mon côté, n'ayant pas de nouvelles de Lysine, plutôt que de suivre ses recommandations, je retourne au Ménil par mes propres moyens. J'entre dans la maison, je découvre l'effraction et...
Et c'était là que le bât blessait. L'incohérence arrivait pile à cet instant. Pourquoi aurait-elle tout oublié subitement et se serait-elle glissée dans la peau de Lysine Barthe? Pourquoi aurait-elle appelé les flics en leur signalant qu'elle venait d'être victime d'une intrusion, faisant du même coup, en une fraction de seconde, une croix sur toute sa vie d'avant? Bien sûr que cette histoire ne tenait pas la route. À moitié rassurée, elle songea tout à coup qu'il n'y avait aucune photo d'elle sur les murs ou dans des cadres. Aucun album de famille, nulle part non plus. Elle grimpa au grenier, se dirigea vers la soupente du fond et ramassa les films de son père. Des Noëls, des anniversaires, des vacances. Elle redescendit aussitôt, le cœur battant, et rebrancha le projecteur. En insérant le film intitulé « Communion de Lysine », elle se rendit compte que, de ce moment, ne lui restait que des souvenirs imprécis. Des cierges qui brûlaient, des enfants en aube, des sons de cloche. Mais aucun visage. Juste des silhouettes indéfinissables. La gorge serrée, elle enfonça le bouton « Marche ». Une image floue se dessina, puis les traits d'une femme, sa mère. Elle souriait à la caméra, portait un chapeau à voilette et un élégant tailleur bleu. Elle se tenait debout dans la travée d'une église. Lysine savait qu'il s'agissait de sa mère. Pourtant, en la voyant, elle ne ressentait pas la moindre émotion. Elle semblait comme extérieure à ses moments de bonheur. La personne qui immortalisait l'événement offrait ensuite un plan large de l'assemblée. Elle ne reconnaissait aucun de ces gens. Qui était-il? Un garçon d'une dizaine d'années, cierge à la main, guidait la procession. La caméra zoomait alors sur une fillette, trois rangs derrière. Concentrée, cette dernière adressait un bref regard à l'objectif. Et Lysine dut se retenir au mur le plus proche pour ne pas tomber. Cette gamine, ce n'était pas elle. C'était l'autre. L'autre, avec ses cheveux roux, ses iris noirs, la version jeune de la femme crucifiée à la cave. D'un coup, elle stoppa la vidéo, sortit la bande de l'appareil sans ménagement et tremblante, peina à en installer une autre. Le ski, la neige, et encore cette fille, âgée cette fois de 16, 17 ans. Sous le choc, Lysine recula de plusieurs pas, bouscula du coude un portrait de ses parents qui trônait sur un meuble. Ses parents. En réalité, deux parfaits inconnus qui faisaient partie de ses faux souvenirs, mais qui n'avaient rien à voir avec elle. Car il n'y avait qu'une usurpatrice depuis le début. Et cette usurpatrice, c'était elle.